Marc Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la journée d'hier a été historique?
Oui, sans aucun doute, hein, c'est même un événement dont on avait du mal à rêver au début de tout ce soulèvement populaire au mois de décembre dernier, quand les gens étaient descendus dans la rue pour obtenir de quoi survivre, hein. Après, il y a eu la chute du dirigeant, du général Omar al-Béchir. Et là encore, on était loin du compte, donc on est arrivé à un point d'équilibre là entre les civils et les militaires, qui était quelque chose qui n'était pas du tout garanti, parce qu'il y a du sang qui a été versé aussi à plusieurs reprises à Khartoum ces derniers mois. C'était sans doute des tentatives justement de faire capoter cette perspective de règlement.
Vous parlez de point d'équilibre et officiellement depuis hier, le pouvoir est partagé entre militaires et civils, mais est-ce que c'est vraiment du 50-50?
Bon, il y a un 11e membre dans ce cabinet, hein, qui est composé de 5 civils et de 5 militaires, qui fait que sur le papier, les civils ont un point d'avance. Enfin, les deux ministres clés, je dirais, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, sont des militaires, tandis que le Premier ministre est un technicien civil, un économiste. Donc, les rôles sont clairement répartis, c'est-à-dire que les militaires ont les clés du pouvoir et les civils sont censés stabiliser la situation du côté de la population et trouver des solutions à la crise économique.
Donc les ministères de souveraineté restent aux mains des militaires et l'économie passe aux mains des civils?
C'est un peu ça, l'économie et aussi la lisibilité de ce nouveau régime sur la scène internationale. On constate que les 5 membres civils qui ont été sélectionnés ne sont pas des professionnels de la politique, ne sont pas des gens très connus. C'est une équation qui vise à montrer qu'il y a une représentation féminine. Il y a 2 femmes dans ce conseil, dont une est chrétienne et copte, c'est-à-dire une communauté originaire d'Égypte, mais qui n'a aucun poids politique au Soudan et qui est extrêmement minoritaire. Et les autres sont des nouveaux venus qui sont connus pour leur probité, mais non pas pour leur assise politique. Ce sont des gens dont le nom a émergé au cours de ces derniers mois. Ce ne sont pas des vieux routiers de la politique soudanaise, ce qui est peut-être un signe aussi de tourner une page de l'ancien monde. Le Soudan compte de nombreux partis politiques implantés de longue date, qui sont soit laïcs, soit avec une connotation religieuse émanant des confréries ou bien partis communistes et des partis nationalistes arabes de toutes sortes qui n'apparaissent pas. On a l'impression que les leaders de ces mouvements sont restés un peu en retrait et ont mis en avant des gens qui pouvaient être acceptés par les militaires et qui étaient là pour leurs compétences beaucoup plus que pour leur représentativité.
Voulez-vous dire que les grands partis politiques comme le parti Oumma de Sadegh El-Mahdi se réservent pour l'avenir, pour dans 3 ans, lors des élections?
On peut le penser parce que au sein des partis établis de longue date, il y a aujourd'hui un problème de génération. Le chef du parti Oumma, Sadegh El-Mahdi, est quelqu'un qui est non seulement déconsidéré parce qu'il a déjà assumé la fonction de premier ministre à 2 reprises depuis une cinquantaine d'années, et chaque fois ça s'est soldé par un échec. Donc on a du mal à imaginer quelle peut être la représentativité aujourd'hui de ces grands partis confréries qu'aujourd'hui. Il y a une passation de pouvoir peut-être à la nouvelle génération, en particulier à la fille de Sadegh El-Mahdi, Myriam El-Mahdi, qui joue un rôle aujourd'hui éminent à l'extérieur, hein, du Soudan, pour représenter ce parti Oumma qui a été le principal parti du Soudan, mais aujourd'hui personne ne peut vérifier la validité, la popularité de ce parti. Le Soudan a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années. Ce sont des partis politiques qui souvent ont une base rurale, tribale, une base confrérique, et aujourd'hui la société soudanaise s'est beaucoup urbanisée. On l'a vu lors de ces manifestations dans toutes les villes de la capitale et des provinces. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui s'est déconnectée de cette structure politique traditionnelle. Il faut qu'une nouvelle structure émerge. Je ne suis pas sûr que les anciens partis soient capables de représenter ces forces nouvelles qui sont formées beaucoup par des étudiants, par une jeunesse éduquée qui ne s'inscrit pas dans le schéma des anciens partis.
Dans le processus de transition, le général Dagalo, alias Emeti, est omniprésent. D'ailleurs, il est dans ce nouveau conseil souverain. Or, il a commandé les forces de soutien rapide qui ont tiré sur la foule le 3 juin, 127 morts de sources hospitalières. Est-ce que, comme Bonaparte, il ne risque pas de confisquer la révolution?
C'est un peu l'épée de Damoclès qui est suspendue aussi bien sur l'armée que sur les civils. C'est effectivement la première crainte qu'on peut avoir, c'est que ce Dagalo et les forces de déploiement rapide qu'il dirige, ces 60 000 hommes, cette armée parallèle de mercenaires, confisquent la révolution. C'est sans doute une des raisons qui ont amené les militaires de haut rang et les militaires de carrière à s'entendre avec les civils sur une base qui marginalise pour l'instant et relativement Dagalo qui attend patiemment son heure. secteur et qui est soutenu par l'Arabie Saoudite avec les milliards de dollars que ça représente éventuellement. Et il faut savoir que Dagalo, hein, Mohamed Hamdan, est un criminel de guerre qui n'a pas été épinglé jusqu'à présent par la Cour pénale internationale, mais qui est un responsable au premier chef des viols, des massacres, des déplacements de population au Darfour. Donc c'est quelqu'un qui dirige une armée de mercenaires soutenue par l'Arabie Saoudite et qui attend son heure. Il est en embuscade et il est craint autant par l'armée que par les civils. D'autre part, c'est un peu une force d'occupation parce que c'est quelqu'un qui, pour la première fois, et à la différence aujourd'hui du Premier ministre ou bien d'Al-Burhan, n'est pas originaire de la vallée du Nil, mais du Darfour, d'une lointaine tribu, Rizaïgat, et que ses troupes sont souvent des gens qui viennent du Niger, du Tchad, sont des jeunes désœuvrés qui ne peuvent pas prendre le bateau pour venir en Europe. C'est vraiment des soldats perdus, si vous voulez, qui n'ont pour seule ambition que de s'enrichir en contrôlant des mines d'or, en contrôlant le flux de migrants vers l'Europe, mais qui n'ont aucun sens national, qui ne sont même pas donc soudanais pour la plupart, et qui se comportent comme une force d'occupation aujourd'hui dans la capitale, et qui sèment la terreur, qui n'ont aucun souci de l'avenir, mais simplement de pillage des ressources sur lesquelles ils ont mis la main.
Est-ce que le corps expéditionnaire soudanais va rester au Yémen dans les mois qui viennent ?
C'est une question importante, significative aussi, dans la mesure où ce corps expéditionnaire est recruté et expédié par Dagalo, justement, et payé par l'Arabie Saoudite, qui a fait la fortune de Dagalo, puisque c'est lui qui touche la paye des mercenaires et qui en reverse une partie, bien sûr, à leur famille, mais qui empoche le gros pour lui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les civils veulent se désengager de cette opération du Yémen, qui est très impopulaire au Soudan. Les militaires de carrière également, tout ce qui permettra de renier les ailes de Dagalo financièrement et politiquement sera bienvenu. Maintenant, il faudrait pour cela que d'autres forces internationales agissent dans ce sens, fassent pression sur les nouvelles autorités soudanaises pour qu'elles se retirent. Je pense évidemment à l'ONU, mais je pense aussi aux États-Unis, éventuellement en sous-main aussi aux Émirats Arabes Unis, mais qui utilisent aussi ces mercenaires dans une certaine mesure sur la côte yéménite. Donc c'est un enjeu important des semaines à venir.
Marc Lavergne, merci.